Métaphysique par le Père Philippe, à Saint-Joseph, le 6 février 85.
On demande de préciser davantage ou de nouveau ce que les stoïciens disent à propos du sujet de la qualité. La philosophie des stoïciens, elle est très importante pour nous parce qu'elle a eu une grosse influence sur les pères de l'Église. Et elle n'est pas commode. Il faut bien comprendre le mouvement, parce que vous faites quand même un cours de philosophie grecque. C'est important, je vous dis, à titre de formation philosophique. Nous avons une formation spéculative. Et nous mettons le primat là-dessus. Et quand je dis une formation philosophique spéculative, c'est-à-dire le sommet, la philosophie première, avec la philosophie du vivant, avec la philosophie de la nature. On ne voit pas beaucoup la philosophie de la nature, c'est vrai. On le verra, ne vous inquiétez pas. Et puis il y a la philosophie pratique. Il faut toujours avoir, je crois, progressivement, cette structure de la philosophie telle qu'Aristote nous la donne, parce qu'elle est fondée sur le conditionnement même de notre intelligence. Je ne crois pas qu'on puisse détruire ça ou aller au-delà de cela. Croyez bien, je l'ai secoué dans tous les sens. Parce que c'est important, c'est pas parce qu'Aristote le dit. C'est parce que c'est une philosophie de l'expérience, tout simplement. Donc une philosophie du réalisme et de l'expérience. Et si vous réfléchissez sur la philosophie de l'expérience, vous verrez que nécessairement, il y a ces diverses orientations d'ordre pratique. Je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais quitte à le refaire une fois, parce que c'est une position critique, ça. Comprendre si, de fait, on doit modifier ce qui nous a été donné, ce que saint Thomas a repris. Mais saint Thomas est très docile à Aristote, et quelquefois, il n'est pas assez critique. Nous sommes beaucoup plus critique que saint Thomas, parce que nous avons eu Descartes comme grand-père, ce que saint Thomas n'a pas eu, n'est-ce pas? Et donc nous avons un parrainage de Descartes qui est quand même quelque chose d'énorme, et nous avons Kant par-dessus le marché, de sorte que nous sommes hyper critiques. Les conséquences philosophiques, critiques, se retrouvent jusque dans la pratique de notre vie. Nous sommes hyper critiques. Tandis que saint Thomas lui disait, il y a un bœuf dans le ciel qui tient où est-ce qu'il est. Vous voyez, saint Thomas était naïf. Saint Thomas serait au milieu de nous et dirait, mais ce qu'il est naïf. Il était contemplatif. Tandis que nous sommes hyper critiques, alors, étant donné que nous sommes hyper critiques, je ne veux pas dire qu'il faut revenir à saint Thomas, on ne peut pas. On est du XXe siècle, la dernière partie du XXe siècle. Hein. Et ça va vite. Alors, on est dans cette partie, donc on est hypercritique, il faut le savoir, c'est impossible autrement. Même si vous secouez avec cette hypercritique ces distinctions de la philosophie, je crois qu'on les retrouve. Philosophie du faire, philosophie de l'agir, philosophie de la communauté, le triangle de base. Fameux, tout le temps y revenir à ça. L'expérience de la transformation du monde, la rencontre avec l'homme, le face-à-face, os de mes os, chair de ma chair, ça se décline de diverses manières. Alors ça, c'est le face-à-face, et puis l'aspect de la communauté. Puis à partir de là, cette recherche de la vérité pour elle-même, dans toute sa force. L'aspect critique et l'aspect logique. On comprend très bien tout ça. Bon. C'est, je crois, quelque chose de très important de tout le temps comprendre cette structure de notre intelligence humaine dans la recherche de l'homme. Parallèlement à cela, il faut essayer de comprendre, dans une perspective du devenir philosophique, c'est-à-dire l'histoire de la pensée de notre monde occidental, et se faire à soi-même une petite topique de cette histoire de la pensée. Oui. Pas seulement avoir les tableaux dans le fond du cours qui nous montrent les positions des différents philosophes et les dates des différents philosophes. Au bout d'un certain temps, je crois que c'est inscrit dans votre mémoire intellectuelle et vous voyez exactement à quel moment Descartes, à quel moment Occam, à quel moment Hegel, à quel moment Marx. Et puis dans la philosophie grecque, comprendre le berceau, le point de départ, les pré-socratiques, Socrate, c'est le soleil qui commence à monter. C'est l'aurore de la philosophie grecque, puis Platon, Aristote, et puis, une fois qu'on a touché ce sommet, le sommet de la philosophie grecque, au dire de Heidegger, c'est la découverte de l'entelecheia, la découverte de l'être en acte. C'est le sommet. Puis après, qu'on a touché quelque chose de très élevé, on retombe dans une espèce de philosophie de l'immanence. C'est très curieux. Je crois qu'on peut dire, vous voyez, qu'il y a une grande montée vers l'acte. Tout avec ici Socrate. Là, la grande montée, elle est très socratique. Socrate. Socrate découvre, connais-toi toi-même. C'est quand même très important. Platon et Aristote, l'acte, c'est quand même ça ce qu'il y a de génial dans Aristote. La substance, Platon, et l'entelecheia et l'energeia, Aristote, les trois grands. Il faut toujours les voir comme les trois grands. Il faut se faire à soi-même un peu, vous voyez, progressivement, et les présocratiques avant. Une fois que vous avez ce sommet, on touche là l'aspect de la transcendance, l'acte pur. On n'est pas allé beaucoup plus loin. L'intelligence qui touche l'acte pur, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le païen, Aristote, l'homme très religieux comme païen, l'homme très religieux a découvert ça. Et découvert que Dieu est acte pur, qu'il est l'acte. Et alors, évidemment, il aurait pu aller un peu plus loin, découvrir la création. Il l'a peut-être découvert, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il l'a découvert ou pas. Puisqu'il y a un livre, Périt ou Théou, qui est perdu. Puis alors, une fois qu'on a touché ce sommet de la transcendance, la transcendance, elle est touchée par l'acte. C'est l'acte qui nous donne la transcendance. C'est pas l'ousia. C'est pas la substance. À partir de là, on va avoir une vision de l'immanence. C'est du reste très beau de voir que c'est à partir de la transcendance qu'on voit l'immanence. Et alors l'immanence, elle est vécue différemment chez les épicuriens. C'est l'immanence dans l'homme, la jouissance. C'est un repli de l'homme qui se replie. Après un grand effort de monter, on est fatigué. Ça arrive. Après un an de noviciat, on est fatigué. Il y a un repli. C'est... Donc les épicuriens, puis les stoïciens. Eh bien, les stoïciens sont aussi dans l'immanence, mais diamétralement opposés. Deux frères qui n'aiment pas beaucoup de se regarder. Et nous avons tous en nous un petit épicurien, nous avons tous en nous un petit stoïcien. Sous une certaine manière, c'est la droite et la gauche. Hein, vous voyez bien, sous un certain aspect, c'est la droite et la gauche. Nous avons tout ça au plan moral. Nous avons tous un peu l'épicurien et le stoïcien. Le stoïcien, c'est celui qui met en pleine lumière la volonté. Et l'épicurien, c'est celui qui met en pleine lumière la joie, la jouissance. Une jouissance à tous les degrés. La jouissance contemplative. L'épicure est contemplatif. Il va atteindre une sagesse. Une sagesse de repliement. Donc il n'est plus une vraie sagesse. Donc on est dans l'immanence. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Puis alors vous avez un effort nouveau qui va par l'immanence essayer de rejoindre la transcendance. Et vous avez Plotin. Plotin est un être vénérable. Hein. Plotin. Il faut peut-être le mettre un petit peu en dessous de l'acte pur d'Aristote. Hein. Il faut le mettre un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous, parce que je ne crois pas qu'il a dépassé l'acte pur. Je ne crois pas. Aristote a compris qu'il y avait là. Mais Plotin fait une espèce de synthèse de l'immanence et de la transcendance. Mais c'est par l'immanence qu'il atteint la transcendance. Et à partir de Plotin, on a tout le néoplatonisme. Le néoplatonisme qui va dire... Ce qui n'empêche pas, de temps en temps, il y a des moments d'arrêt, des critiques, des sceptiques, le pyrrhonisme, qui sont des gens sceptiques, les prédécesseurs de Kant, les prédécesseurs du positivisme, ça a toujours existé, ça. Ça existe même en Grèce. Mais au fond, ce n'est pas ça qui domine au point de vue de la pensée. Ce qui domine au point de vue de la pensée, je crois qu'en gros, on peut dire la grande montée vers la transcendance, le haut plateau de l'immanence, Épicure et Stoïcien, alors surtout les Stoïciens, c'est évident. Les Stoïciens ont une très très grosse influence, et au terme des Stoïciens, ce qui est le plus merveilleux chez les Stoïciens, Épictète. Ça, c'est sûr, c'est l'homme de l'immanence la plus pure. Ça, Épictète, c'est quand même quelqu'un qu'il faut respecter quand on retrouvera Épictète au ciel. Quelqu'un qui a compris ce que c'était l'homme intérieur. Il a compris l'intériorité. Et il a compris la liberté, la vraie liberté, cette liberté intérieure. Et puis peut-être, c'est l'homme de la liberté. C'est pas tellement l'immanence qui fait découvrir la liberté. Et il a découvert la liberté d'une façon bien plus belle que Descartes. Bien plus deep, bien plus spirituelle. C'est une liberté religieuse qu'il découvre. Je ne dis pas une liberté contemplative, parce que ça n'existe pas. Mais c'est une liberté religieuse. C'est qu'au fond, le point de vue essentiel de l'homme, c'est se conformer à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. C'est le grand mystère de l'abandon. C'est très beau. Hein. Les stoïciens, dans Épictète, ont quelque chose de très très fort. L'an 50 à Rome. Alors, ce n'est pas étonnant que les pères de l'Église ont assumé en premier lieu dans la philosophie grecque le stoïcisme, pas l'épicurisme, le stoïcisme. Et ensuite, Plotin, Platon et Aristote, le dernier venu. Saint Thomas. C'est intéressant de voir comment, dans la philosophie, dans les pères de l'Église, tout ça a été assumé. Alors, ce qu'il faut, c'est garder ce petit plan. Faites la même chose pour les modernes. Il faut avoir comme ça des petits schèmes qu'on détruit plus ou moins. Mais celui-là, il tient bon. Je crois qu'il est vrai. C'est la grande montée. En gros, c'est la grande montée vers la transcendance. C'est le grand élan philosophique, la découverte philosophique. Puis alors, le haut plateau. Le haut plateau, vous voyez, c'est l'homme. C'est le repli sur l'homme, le haut plateau. C'est normal, c'est l'immanence, c'est l'éthique. C'est l'âge de l'éthique. L'éthique existe chez Platon et chez Aristote, c'est évident, mais là, c'est l'éthique qui prend tout. Le stoïcisme se termine dans l'éthique. Il commence par la philosophie de la nature et se termine dans l'éthique. Il se termine dans le problème humain et le problème humain de la liberté, avec Épictète. Et puis alors, Plotin, c'est la philosophie mystique. C'est pour ça que je dis, c'est l'immanence, par l'immanence on rejoint la transcendance. Et Plotin et le néoplatonisme, c'est la philosophie qui a eu le plus d'efficacité. Ça c'est sûr. On peut dire que presque tous les philosophes, dans l'ontologisme pour moi, c'est la réplique du néoplatonisme en chrétienté. L'ontologisme, parce qu'on voit le séminaire, hein, on découvre ce que c'est que l'ontologisme. Et au fond, on peut dire que l'ontologisme, c'est du néoplatonisme chrétien, baptisé. Mais baptisé par un curé, au point de départ, hein, Malebranche. C'est évident qu'on voit bien ce néoplatonisme. On ne peut pas parler de l'homme sans voir Dieu. En gros, ça, on ne peut pas parler de l'homme sans voir Dieu. C'est dans la lumière de Dieu que je vois l'homme. C'est très vrai au point de vue théologique, c'est très vrai au point de vue de la foi, c'est pas vrai au point de vue philosophique. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui, c'est pour ça que je dis, c'est à partir de la foi qu'on va essayer de comprendre une philosophie. C'est dans la foi qu'on va comprendre une philosophie. Et donc, cette philosophie ne sera pas une vraie philosophie. Ce sera à partir d'une expérience interne de foi qu'on va essayer de découvrir la philosophie. Et donc, on comprend comment le néoplatonisme, qui a eu un succès énorme, c'est évident que c'est plus facile d'être néoplatonicien que d'être aristotélicien. C'est plus facile. Le père Deau disait toujours, la grande tentation, c'est de retomber dans le néoplatonisme. Et on retombe dans le néoplatonisme à la fin de ses jours. Quand on est un peu fatigué. Une humanité fatiguée retombe dans le néoplatonisme. Et c'est un fait, hein. On est tous néoplatoniciens, si on ne fait pas attention. Parce que c'est beaucoup plus facile d'être néoplatonicien. C'est beaucoup plus difficile d'être aristotélicien, parce que c'est maintenir l'exigence de l'analyse. Le néoplatonicien ne fait que décrire. Alors il y a des formes multiples d'être néoplatonicien, mais il ne fait que décrire, il décrit tout le temps. Alors, revenons donc aux stoïciens, je voulais montrer ça pour que nous puissions, il faut tout le temps essayer de recomprendre ces choses-là. Alors je vous disais que chez les stoïciens, la qualité est vraiment essentielle, étant comme un principe pneumatique, ayant sa tension. C'est-à-dire que les stoïciens divisent tout de suite le point de vue du substrat, hypokaimenon, donc le substrat, le sujet, qui désigne le point de vue de la matière passible, le corps. Pour les stoïciens, surtout au point de départ, c'est avant tout le point de vue du corps qui est le sujet. Et à côté du corps, il y a les qualités qui nous font comprendre le comment. Donc, il y a la division entre les deux. Le point de vue du sujet existant, c'est la réalité corporelle, et la qualité qui détermine et qui montre justement la manière dont on existe. La manière dont on existe. Et dans cette manière dont on existe, je vous disais qu'il fallait saisir ce que représente le tonos, c'est-à-dire la tension, le plus et le moins. Et au fond, tout se ramène à ces trois aspects. C'est intéressant à voir chez les stoïciens, ces trois aspects. L'aspect du sujet, le sujet existant. C'est votre moi, en définitive, c'est votre moi. C'est notre moi existant. Et puis alors, la qualité comme telle, tout ce qui vient montrer que pose la manière d'exister, de ce sujet, ce qui le qualifie, son pose. Et à côté du pose, le tonos, c'est-à-dire le point de vue de la tension. C'est le plus et le moins. Toute qualité, un plus et un moins. Donc c'est à l'intérieur de la qualité que vous avez ce jeu. Et tout se ramène à ces trois aspects constants. Donc vous voyez bien comment la qualité va prendre un rôle extrêmement important chez les stoïciens. Puisque pour Aristote, la qualité était une propriété, une conséquence de l'ousia. Chez les stoïciens, la qualité devient comme les attributs divins. C'est la manière d'exister. Je ne connais pas vraiment ce qu'est le sujet. Je ne connais pas vraiment ce que c'est que le sujet existant. Mais je connais à travers les diverses manières d'exister. Et donc toute l'intelligibilité va toujours rester au niveau des qualités. Le sujet existant, c'est ce vers quoi tend tout. Mais au fond, je ne sais pas très bien, puisque c'est identifié à la matière. Ça n'a pas d'intelligibilité propre. Toute l'intelligibilité vient des qualités tautologiques, de la tension plus ou moins grande, à l'intérieur des qualités. Donc on peut dire que chez les stoïciens, la qualité devient le lieu propre de l'intelligibilité que j'ai des choses. Alors, par rapport à Dieu, on comprend très bien comment la providence va prendre un rôle extrêmement important. Puisque Dieu, je ne le connais pas dans son être, mais je connais la manière dont Dieu me conduit. Chez Épictète, la qualité sera comme dépassée par le point de vue de l'ordre voulu par la providence divine. C'est un ordre qui, en définitive, relativisera toutes les qualités. L'être humain, parce que chez Épictète, c'est l'homme qui l'intéresse, l'être humain sera dans cette attitude de l'esclave vis-à-vis de Dieu, vous voyez, c'est très curieux, relatif à Dieu, comme l'esclave est relatif à son maître. Il y a quelque chose qu'on trouve chez Épictète qui est déjà de l'ontologisme. Il n'existe que relatif à Dieu. Traitant de la providence, Épictète interroge, si Dieu avait créé les couleurs sans avoir créé la capacité de les voir, quelle en serait l'utilité ? De même, s'il avait créé la seconde sans les premières, et de même encore, si, ayant créé les deux, il n'avait pas créé la lumière, quel est donc celui qui a harmonisé ces réalités l'une à l'autre ? C'est la question de l'ordre. La providence ordonne toute chose. Et c'est la providence qui met cet ordre et cette ultime intelligibilité que j'ai provient de l'ordre. Le bien de l'homme se ramène à la qualité même du choix. Si vous me demandez quel est le bien de l'homme, je ne puis rien dire d'autre que, justement, le point de vue du choix. C'est la qualité du choix. Un être humain, la personne humaine, se donne dans ce choix. De même, il semble bien qu'il n'y ait plus chez Épictète que deux interrogations, celle du poion ti esti, qui revient assez souvent, et celle du pos ekei. Il n'y a plus que deux interrogations. L'interrogation de la qualité et de la manière d'exister. Alors vous avez la qualité. La qualité, le pos qui sera dans la qualité. La manière dont la qualité va qualifier. Le poion ti esti. Dans le premier stoïcisme, on pourrait dire qu'il y a le sujet, la qualité et l'attention. Et déjà la qualité, déjà la pose, c'est une manière d'exister. Et dans la mesure même où le sujet disparaîtra, on n'aura plus que la qualité et l'attention. Alors maintenant, je vais vous dire un petit mot sur Plotin. C'est pour ça que je l'ai situé, pour que vous voyez bien. Plotin ne peut accepter la conception aristotélicienne de la qualité. Là, il y a une opposition farouche de Plotin contre les catégories. Si on veut lire Plotin de cette manière-là, c'est du reste intéressant. Il y a toute une série, dans les Énéades de Plotin, il y a toute une critique des catégories d'Aristote. Une critique très nette. Il n'a pas compris du tout ce qu'étaient les catégories d'Aristote. C'est intéressant parce qu'on voit très bien les catégories d'Aristote, c'est l'expérience que j'ai de la réalité, c'est pas une expérience interne. Or, pour Plotin, tout ne peut être que dans l'expérience interne. Pour celui qui ne voit que l'expérience interne, les catégories ne signifient rien. Donc il ne peut accepter la conception aristotélicienne de la qualité telle qu'elle est donnée dans les catégories. Pour lui, il faut diviser les qualités en qualité de l'âme et en qualité corporelle. Alors, c'est très très curieux, on retrouve la distinction que Descartes fera entre substance quantifiée et substance spirituelle. Vous voyez ? Le parallélisme et la parenté qui est là. Parce qu'au fond, c'est cette distinction entre qualité de l'âme et qualité corporelle que Plotin fait au niveau de la qualité, que nous retrouverons chez Descartes entre substance quantifiée et substance spirituelle. Vous voyez le lien. C'est toujours, n'oubliez jamais, hein, au point de vue philosophique, hein, c'est toujours le moment de la division qui nous fait découvrir l'intelligence d'un philosophe. C'est la manière dont il divise. Et quel lieu il divise. Parce que c'est ça qui montre le plus l'intelligence dans sa pénétration. Intus legere implique la division. Hegel divise et c'est la dialectique. Et la division hegelienne relève justement de cette affirmation et cette négation qu'il veut prendre radicalement dans le point de vue de l'intelligence. Aristote divise l'être. Plotin, il divise la qualité. La division la plus radicale, c'est la qualité. Qualité de l'âme, qualité corporelle. Il ne peut y avoir entre les deux d'unité générique. Donc la qualité comme telle disparaît. C'est la qualité corporelle et la qualité spirituelle qui sont importantes. Si le beau sensible et le beau intelligible n'ont de commun que le nom, il en va de même, ajoute Plotin, pour la qualité, le topoion. Ça, c'est très intéressant aussi à voir comment il regarde ce point de vue. C'est important puisque c'est une clé, hein, Plotin. C'est sûr. Donc, pour lui, le beau. Vous avez le beau intelligible et le beau sensible. Grande division, beau intelligible, beau sensible. Cette division, dit Plotin, fait que le terme commun beau n'est que le terme, n'est que le nom. En réalité, il y a une diversité totale entre le beau intelligible et le beau sensible. Il n'y a rien de commun entre les deux. Vous savez bien que grand philosophe sur la beauté, c'est Plotin. Pas l'oublier, c'est celui qui a le plus parlé de la beauté. Il y a des énéades entières de Plotin sur la beauté, qui sont très belles du reste. Hein. La beauté pour Plotin, c'est la victoire de la forme sur la matière. C'est la victoire de la forme. C'est la forme qui est victorieuse et qui l'emporte. Donc, si le beau sensible et le beau intelligible n'ont de commun que le nom, il en va de même, ajoute Plotin, pour la qualité, le topoion. Eh bien, vous avez la qualité qui affecte l'âme, l'âme spirituelle, et puis la qualité dans le monde sensible. Des deux manières d'être. Cependant, il y a un lien entre les qualités incorporelles et les qualités sensibles. Nous mettons les qualités corporelles au nombre des choses qui sont dans l'ousia sensible, donc dans la substance sensible, parce qu'elles sont des affections, des pâtés inclinées vers le sensible et des raisons d'une âme particulière. Ce pathos, ce partage entre le corps auquel il s'applique et l'âme dans laquelle il est. C'est ce pathos, cette affection, que nous attribuons à la qualité qui, sans être corporelle, se rapporte au corps. Les qualités qui affectent l'âme ont donc un rapport au corps. Quant aux qualités corporelles, elles se divisent selon les sens, les unes arrivant par les yeux, les autres arrivant par l'oreille. Donc vous voyez, comment il montre que la qualité comme telle aura toujours un certain lien au corps. Donc même la qualité spirituelle, pour lui, n'existe qu'en fonction d'une certaine expérience interne. Donc ce pathos, cette affection, se partage entre les corps auxquels elle s'applique. En ce qui concerne les qualités appartenant au monde sensible, Plotin distingue les qualités qui sont des différences de l'ousia, de la substance, et celles qui ne sont qu'accidentelles. Il affirme également que les différences concernant l'ousia se distinguent d'après les qualités. D'autre part, il affirme que les qualités dans le monde sensible diffèrent de la qualité dans le monde intelligible, en ceci que, dans le monde sensible, la qualité n'indique pas ce qu'est le sujet, le tiesti du sujet. Elle ne fait pas la différence des substances entre elles et leur caractère propre, leur différence et leur caractère propre. Elle révèle seulement ce que nous appelons qualité et ce qui, dans le monde intelligible, est un acte. Alors ça, c'est au fond très intéressant à voir que la qualité n'est plus la diaphora de la substance. La qualité se ramène à l'acte. Dans le monde intelligible, donc, elle est l'acte, elle est un acte. À première vue, il semble qu'il y ait là contradiction. Mais la suite de ce dernier texte est éclairant. Lorsque par la pensée, nous isolons cette propriété, nous engendrons la qualité en prenant dans l'ousia la partie la plus superficielle. Nous engendrons le topoion, donc la qualité, en prenant dans l'ousia la partie la plus superficielle. Ainsi, il n'y a pas de qualité qui soit une différence réelle de l'ousia. Mais nous distinguons les substances par les qualités que nous engendrons en considérant la partie la plus superficielle des substances. Vous voyez, la qualité, c'est ce qui se manifeste à l'esprit. Et c'est ce qui se manifeste à l'esprit et qui permet à l'esprit de distinguer les choses. Donc, elle n'a pas un enracinement dans la réalité. La qualité tend à devenir quelque chose de purement relatif. C'était déjà chez les stoïciens comme ça. La qualité, dit-il, n'est qu'une trace, une ombre ou une image qui a abandonné son ousia. Tous les accidents qui ne sont pas des actes et des formes substantielles sont des qualités. Donc, on l'a défini négativement. Mais tous les accidents qui ne sont pas des actes et des formes substantielles sont des qualités. Mais leur modèle intelligible, où elles existent réellement, sont des actes. Ah, vous voyez, la chose très délicate. Hein. La qualité sensible, c'est l'accident le plus superficiel. Ça, c'est la qualité sensible. C'est ce qui manifeste les réalités. Mais le modèle, alors ça c'est le platonisme qui demeure dans Plotin, le modèle de ces qualités, c'est l'acte intérieur de l'âme, le pathos, qui est le point de vue, qui est l'exemple. Donc je relis, la qualité n'est qu'une trace, une ombre ou une image qui a abandonné son ousia. Chose d'errant. Elle a abandonné satellite de l'ousia, relatif à autre chose. Tous les accidents qui ne sont pas des actes et des formes substantielles sont des qualités. Mais leur modèle intelligible, où elles existent réellement, sont des actes. La qualité, c'est ce qui est isolé de l'ousia. Ce qui est lié à l'ousia est une forme ou un acte. Ce n'est jamais la forme, mais seulement l'accident d'un sujet. La qualité ne peut être que cela. La qualité ne peut être que quelque chose qui est isolé de la substance, donc qui est relatif à autre chose. Donc confusion, si vous voulez, du moins, si on parle en termes aristotéliciens, on peut dire que confusion entre la qualité et la relation. Pourquoi ? Parce que la qualité, c'est ce qui manifeste à l'intelligence, aux sensations, ce qu'est la réalité. Mais en réalité, elle ne nous manifeste pas l'ousia, elle est isolée de l'ousia. Alors, on coupe par le fait même la connaissance de la connaissance, profonde qu'on peut avoir de la réalité. C'est ce qui fait comprendre cette division qu'on trouvera dans Plotin entre le monde intelligible et le monde sensible. La qualité ne nous donne plus la connaissance du monde sensible. Elle le manifeste, mais elle ne nous donne plus la connaissance. Si les substances se distinguent d'après les qualités, et si les actes et les actions se distinguent selon qu'elles sont telle ou telle qualité, et si les quantités, elles aussi, se distinguent par les qualités qui sont propres à chacune d'elles, la qualité elle-même ne se divise pas par la qualité, car il est aussi absurde de chercher la différence de la différence que de chercher l'ousia de l'ousia, ou la quantité de la quantité. En ce sens, on comprend que la qualité soit par elle-même, katoto, elle est par elle-même. Elle n'est pas une différence. Elle n'est pas à proprement parler complément de l'ousia. Elle est ce qui s'ajoute. C'est très difficile, hein, vous voyez, de saisir ce que c'est que la qualité chez Platon. C'est très subtil. C'est comme une petite entité. Elle est katoto. Exactement ce qu'on dit de la relation. Je crois que c'est très très fort le point de vue de la relation. C'est la relation qui est quelque chose qu'on ne peut comprendre qu'en fonction de la connaissance. Eh bien, la qualité ne peut se comprendre qu'en fonction de la connaissance. C'est par la connaissance que vous connaissez la qualité d'un être. C'est pour ça que ça manifeste. Mais ce n'est pas la différence de l'ousia. Aristote avait dit « différence de l'ousia ». Vous voyez que tout ça, c'est contre ce qu'Aristote avait dit, la qualité est différence de l'ousia. On montre que non, elle est satellite. Elle est quelque chose qui nous manifeste la présence de quelque chose, mais elle n'est pas la différence de l'ousia. Pour préciser ce qu'est la qualité, on doit remonter des êtres qualifiés aux qualités, car précisément l'être qualifié est dit qualifié par la qualité. Ça, il prend ça d'Aristote. Hein. Il faut donc d'abord saisir ce qu'elle est pour fournir les qualifications. Mais il semble bien que les qualités, puisqu'elles sont dites en plusieurs sens, ne soient pas dans un genre unique. Car qu'y a-t-il de commun à l'exis et à la diathésis, à la disposition? Donc à l'exis, c'est-à-dire à l'habitus, et à la disposition, à la qualité passible et à la figure, ou à la forme. Même si l'on peut admettre que les qualités proprement dites, celles qui qualifient les êtres et qui sont des puissances, ont comme trait commun d'être des logoi, donc d'être des déterminations, et comme des formes, comme la beauté ou la laideur dans l'âme ou dans le corps, on ne peut cependant pas identifier qualité et puissance. Car la laideur, l'incapacité, d'après lesquelles nous sommes aussi qualifiés, ne sont pas au sens propre des puissances, bien qu'elles aient certaines puissances. Tout ça est contre les catégories. C'est pour ça que c'est assez complexe. Je ne peux pas découvrir quelque chose qui soit la qualité et qui se divise, comme dans les catégories d'Aristote, en diverses qualités. Ce que nous avions vu. Autrement dit, toute l'analogie qu'Aristote a découverte dans la qualité est rejetée de Plotin. Et d'autre part, et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas qualité générique. Et je crois qu'en définitive, on arrive à dire que pour lui, la qualité, c'est comme une relation. Une relation d'intelligibilité. Plotin reconnaît que les qualités ne sont pas dans un genre unique, mais se ramènent à l'unité d'une catégorie et donc d'une pure attribution. On pourrait alors dire que, d'une manière générale, la qualité d'un être est un certain caractère qui n'est pas sa forme substantielle. La qualité est quelque chose à l'égard de Lousia qui s'ajoute à celle-ci. Et c'est précisément parce que s'ajoutant à Lousia, elle est après Lousia. Elle n'est pas dans les genres premiers. On pourra préciser que Lousia première a des qualités comme accompagnement. La qualité ne provient pas d'elle, et la qualité ne la complète pas. Donc ça ne fait pas partie de la perfection de Lousia. C'est pourquoi les qualités proprement dites viennent du dehors. Mais elles affectent Lousia, elles sont des pâtés, donc des affections, ce qui vient déterminer. La qualité n'est pas la forme, mais l'acquisition de la forme. C'est une disposition, diathésis. Cette disposition est acquise ou naturelle. Elle change facilement ou elle demeure. Mais elle ne fait jamais partie de l'ousia. Ça, c'est très très net. Il n'y a pas de lien de la qualité de l'ousia. Donc c'est quelque chose qui tourne autour de satellite. Et est très proche de la relation. Très proche de la manifestation. Je crois que c'est très important pour comprendre ce que c'est que le néoplatonisme et pour comprendre ce que c'est que Plotin. C'est difficile, pas commun du tout, parce que ça tourne autour, il est toujours en opposition vis-à-vis d'Aristote. Ça se sent toujours. Chez Plotin, ça sent toujours qu'il est en opposition. Quand il parle de la qualité, spécialement, c'est la qualité est quelque chose pour lui, au fond, de très secondaire, si vous voulez. C'est lorsque l'être est sur le point de procéder vers l'inférieur que naissent la qualité et la quantité. Ah, ça, c'est aussi très intéressant. Donc, c'est la chute. C'est lorsque l'être est sur le point de procéder vers l'inférieur, la procession de l'inférieur. Hein. Vous procédez, c'est toute la grande procession de Plotin. Les processions de Plotin, vous savez bien, c'est de l'un. On procède vers le nous, et du nous, on procède vers l'âme. La trinité plotinienne. On procède de l'un vers l'autre. De l'un, on procède vers le multiple. Le multiple, c'est au niveau de l'intelligence. Et du multiple de l'intelligence, on procède vers l'âme. Et l'âme va suivre le corps et la matière. Et tout l'univers. Donc, il y a les trois hypostases. Alors, vous voyez cette chose très intéressante. C'est que lorsque on procède vers l'inférieur, donc de l'un vers le nous, ou de nous vers l'âme, qu'apparaît la qualité. C'est très très curieux comme vision. Hein. C'est une vision toute différente de la qualité. C'est pour ça que c'est intéressant. Parce qu'il y a quelque chose de juste. Hein. Dans toute erreur, il y a quelque chose de juste. Tout ce qui nous dépayse doit toujours être quelque chose de très intéressant pour nous. Après avoir vu ce qu'est la qualité chez Platon, chez Aristote, vous voyez, chez Plotin, parce que chez les stoïciens, il y a quelque chose qui continue. Plotin, là, a une originalité tout à fait spéciale. Donc, c'est lorsque l'être est sur le point de procéder vers l'inférieur que naissent la qualité ou la quantité. On peut donc affirmer que les substances sensibles sont des substances qualifiées. Mais qu'est-ce qui fait que l'ousia simple devienne l'ousia qualifiée ? Platon répond ramassées en une matière unique, les qualités sont unousia. Prises chacune à part, elles sont qualité, quantité ou qualité de plusieurs sortes. Elles sont ce qui advient à l'ousia une fois engendrée et la différencie, sans la différencier fondamentalement, sans être une différence de l'ousia. L'univers sensible n'est qu'une image de l'ousia véritable, et l'ousia sensible n'est qu'une prétendue ousia. C'est pourquoi l'ousia sensible peut impliquer un mélange et d'une certaine manière la qualité différenciée. Car Socrate, c'est l'homme en général, plus telle qualité. Même l'espèce humaine prise dans le corps se ramène à une qualité du corps. La prétendue ousia sensible est une qualité, une image du logos ou de la quidité. On peut donc préciser que dans une ousia sensible, la qualité ne désigne ni la quidité de l'ousia, ni sa quantité, ni son mouvement, mais un certain caractère indiqué par les mots ici, topoion et quel topoion. Donc on voit bien que la qualité ne touche pas l'ousia, elle ne s'enracine pas dans l'ousia, elle est ce qui permet à l'âme sensible de rejoindre ce d'où elle provient. À ce point de vue-là, c'est un lien avec la finale, avec ce qu'on pourrait appeler le supérieur qui vous localise. C'est presque...